Bon jeudi 21 octobre, Trudeau Landry jusqu'à 15h au FM 93. Mon nom est Jérôme Landry. Bonjour Jonathan.
Bonjour Jérôme.
Finalement, vas-tu exécuter ton plan d'aller huer Kotkaniemi ce soir au Centre Bell?
Je manque de temps.
Tu manques de temps un peu,
hein? On dit que les billets sont disponibles, mais c'est le temps.
Je pense que si tu me donnais le choix ce soir, j'irais plus voir l'ouverture des Lions de Trois-Rivières, la East Coast, qui commence leur... c'est le premier match de leur histoire.
Avec leur beau logo.
Oui, très beau. Le brand est beau. Je trouve que ça a l'air sérieux, l'organisation, dans un amphithéâtre, disons, dans une... Je n'ai pas visité l'amphithéâtre, là, le nouvel amphithéâtre à Trois-Rivières, mais je pense que ça va être le fun. Mais c'est sûr qu'il y a bien des gens aussi qui vont suivre ce soir le retour de Kotkaniemi au Centre Bell. 25-226 pour nous joindre, 418-670-9330. Genre d'émission, on aurait besoin de 5-6 heures, là, tellement il y a de sujets aujourd'hui. Donc, on va commencer par le début, avec notre collègue Philippe-Rodrigue Comeau, qui a suivi une cause importante ce matin au Palais de justice de Québec. C'était la décision sur la remise en liberté d'Éric Légaré, qui serait à l'origine d'un accident qui a complètement décimé une famille sur Dufresne-Montmorency. Puis, tu vas nous raconter ça, mais j'ai l'impression que le gars fait du temps là, derrière les barreaux là, en attendant de plaider coupable. C'est un peu l'impression que ça me donne.
C'est ce qui se dessine, et je te ferai entendre un peu plus tard la réaction de l'avocat de la défense qui parle de son client puis qui parle de la situation, et ça ne fait pas beaucoup de doute, quoiqu'on n'en est pas à cette étape-là encore au niveau judiciaire, mais il pourrait plaider coupable dès sa prochaine comparution le 26 novembre. C'est au calendrier. Et aujourd'hui, tu l'as dit, c'était son enquête sur remise en liberté. On a passé une journée à plaider du côté de la couronne et de la défense, à faire valoir nos arguments. Ça a été aussi un moment où on a diffusé plusieurs séquences qui refont la chronologie de l'après-midi de Légaré, 43 ans, qui a bu 7-8 verres au pub du Parvis avant d'aller partir à toute vitesse, brûler des stops, etc. Je vous ai tout raconté l'histoire déjà, puis on l'a lu beaucoup, mais oui. On peut voir les séquences vidéo et la séquence du drame où il entre en collision avec des véhicules qui attendent à la lumière rouge au coin du boulevard François de Laval.
Sous l'effet du cannabis, 130 km/h.
Exactement.
Je suis passé là un matin en passant. J'étais pas allé depuis l'accident, puis je devais aller voir un client. Puis à la lumière, il y a des choses d'accrochées sur les poteaux, là. Tu sais, des fleurs qui ont été mises, puis.
Une trottinette.
Il y a deux trottinettes. Puis quand on repense à ce récit, entre autres, que tu nous as fait la semaine dernière, là, c'est difficile de rester insensible.
Et le juge avait tout ça en main depuis une semaine, devait rendre une décision, et pour expliquer à la population, c'est pas une décision qui est prise sans tenir compte de quelques éléments importants. En justice au Canada, quand il y a une enquête sur remise en liberté, on n'est pas là pour juger de la culpabilité ou pas de la personne qui se retrouve au banc des accusés, en l'occurrence Éric Légaré. Qui devait faire le juge, c'est regarder trois motifs. On en a retiré un dès le départ. Le premier motif habituellement, c'est est-ce que l'accusé pourrait omettre de se présenter en cours, se sauver comme Paul Mukendi l'a fait? Ouais. Non, c'est pas le cas. Il n'y avait aucun élément en lien avec ce motif-là.
Parce que la règle, c'est la remise en liberté, la règle habituelle. Il faut qu'il y ait une preuve qui soit faite.
Exactement. Deuxième motif, protection du public. Est-ce qu'il y a des chances ou des risques qu'il reprenne le volant si on le libère puis qu'il ait frappé d'autres véhicules, qu'il ait fait d'autres morts? On l'a évoqué du côté de la couronne pour plaider qu'il ne devait pas être libéré. Le juge en a tenu compte, mais ne l'a pas retenu, le motif numéro 2. Et assez étonnamment, c'est le motif numéro 3, ne pas miner la confiance du public qui a guidé la décision du juge. Écoute, ça m'a pris deux pages pour noter les faits aggravants, Jérôme.
Oui.
Pourquoi deux pages. C'est assez surprenamment?
Parce qu'habituellement, c'est le deuxième. C'est la protection du public. Ouais. C'est rare que c'est le troisième. Ouais. De juger que le public pourrait douter de la justice avec les éléments qu'on a en main. Parce qu'il faut considérer que le public n'est pas totalement néophyte en la matière de justice, mais ne s'y connaît pas autant dans les nuances judiciaires aussi. Il doit prendre ça en compte. Et c'est ce qu'il a fait. Et il note plusieurs choses dans les faits aggravants. Responsabilité entière, degré d'insouciance extrême de l'accusé, son taux d'alcoolémie qui dépassait deux fois la limite permise, sa conduite dangereuse à haute vitesse, il a brûlé des stops, mais il a aussi fait un dépassement illégal à côté d'une école près du domaine Mézeray, alors qu'un véhicule faisait un arrêt, lui il l'a contourné par la gauche en sens inverse, des fausses déclarations, lui il avait le droit de garder le silence, il l'a pas gardé le silence quand il a rencontré les policiers après son arrestation. On parle aussi de ses antécédents, les séquelles importantes pour les proches, et le fait qu'il n'y a aucun élément externe, la météo, un bris mécanique, rien de tout ça ne jouer dans l'accident qui est survenu. On parle de preuves.
La défense va être très, très mince si défense il y a. Là, tu sais, je veux dire,
pourquoi pas écouter l'avocat de la défense, Maître Vincent Montminy?
C'est pas avec grande surprise. On s'attendait aux deux opportunités. Advenant qu'on aurait eu ce qu'on voulait, ça serait pas une décision avec une attitude triomphante que j'aurais devant vous non plus. C'est un dossier qui est très sensible. C'est un dossier où la réserve est de mise. C'est un bon jugement. M. Jumorin est un bon juriste. Il a repris les mots qu'il faisait avec ce qu'on a vu en salle de cours. Et effectivement, on était à même, ceux qui l'ont vu, de voir une conduite qui était très dangereuse. C'est mon client, mais ce que je vous dis, je lui ai déjà dit, c'était une conduite qui était dangereuse. C'était un taux d'alcool qui était très haut. Alors, ce que dit le juge Morin, ce n'est pas sorti de nulle part. Je vous dirais que ça reflète là, une certaine réalité. Il y a toujours deux façons de voir les choses. Je pense pas que quelqu'un pourrait se tenir devant vous en disant que monsieur conduisait pas d'une façon particulière ou que c'était pas questionnant. Assurément, ça questionnait n'importe qui voyait les images. Il se fait dire de façon assez crue ce qu'un juge a trouvé des images. Probablement que les mots du juge Morin trouveraient écho auprès de ses confrères. Donc, il va avoir ça à penser aussi, mon client.
OK, c'est le juge Alain Morin qui est là.
Oui, et vous comprendrez qu'il n'a pas été libéré. Là, je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu, là, j'étais dans ma bulle, mais ça tout menait vers une décision qui dit que ben il reste derrière les barreaux. Il y avait plusieurs garanties offertes quand même. 25 000 $ cash, caution, que les parents allaient perdre si jamais ils contrevenaient à l'une des conditions. Thérapie de 3 à 6 mois fermée. On s'était aussi engagé à le conduire au travail une fois qu'il aurait quitté sa thérapie. Et ce qu'on comprend, là, et c'est ce que le juge a mentionné, il dit non, c'est un récidiviste de l'alcool au volant. Il en a fait une thérapie en 2017. Sa tante est décédée d'un autre chauffeur pour alcool au volant. Il a même fait une communication orale, un travail au secondaire là-dessus. Ah ouais. Ils ont eu les occasions de se sensibiliser et le juge ne croit pas que c'était une bonne idée pour la confiance du public.
Il y a une liste de juges en qui j'ai totalement confiance et le juge Alain Morin fait partie de cette liste-là. Je pourrais te nommer François Huot, je pourrais te nommer Steve Magnan aussi. Il y en a quelques-uns comme ça. Carl Thibault, excellent juge aussi. Le juge Morin est un des meilleurs juges que j'ai vu dans ma vie. Siéger donc...
très humain
pas
aussi.
Pour rien qu'on le mêle aussi, j'imagine.
Il était en bourse cette semaine pour d'autres dossiers puis j'ai pu constater à quel point il était humain dans sa prise de décision, même si l'accusé finalement a été déclaré coupable, quelqu'un d'agité. T'as raison, Jérôme, c'est un juge qui a beaucoup de prestance, puis il va manquer au palais de justice parce que je pense que sa carrière...
J'ai une question pour vous, puis peut-être, Jérôme, avec ta grande expérience des palais de justice, tu peux peut-être nous éclairer ou m'éclairer, mais dans un cas comme celui-là, à partir de où le principe de présomption d'innocence prend le bord? Parce que, évidemment, on le sait tous que c'est lui qui conduisait, mais je veux dire, quand même, le juge dit sa conduite était erratique, telle affaire. Il n'y a pas de conditionnel. Donc, est-ce qu'il y a un moment où le système de justice déjà convient, par exemple, la responsabilité d'une personne, mais qu'il faut après ça évaluer le niveau de responsabilité?
À ce point-là, il n'a pas plaidé coupable encore. Donc, il est encore innocent jusqu'à preuve du contraire.
Sauf mais que la preuve est accablante et quasi irréfutable. Le voit, on l'identifie
donc
très
juge
bien.
Avancer ou presque affirmer que la personne a fait telle affaire.
Ben, c'est qu'on le voit. Il y a des tests. C'est rare que.
Je me demandais s'il y avait un principe légal qui disait que dans telles circonstances, tu peux.
Ben, il est encore innocent jusqu'à preuve du contraire, techniquement. Okay. Sauf que là, tu sais, Joe, c'est rare que. Ben, rare. Je pense que c'est de plus en plus courant, mais tu sais, à l'époque, il y a 20-25 ans, tu avais un test d'alcoolémie qui pouvait être élevé, mais tu n'avais pas des caméras puis des témoins partout. Mmh. Pis là, aujourd'hui, là, je t'annonce qu'il y a des caméras puis des gens qui l'ont vu. L'information circule plus vite. Il a été filmé proche d'une école, comme tu le disais. Tu sais, la preuve est lourde, à mon avis.
Je serais curieux, là, je suis peut-être dans le détail, mais si jamais un juriste qui a la réponse, le 25226 ou 670-9330, mais est-ce qu'à un moment donné, c'est un principe non écrit ou c'est balisé de dire que lorsque c'est tellement évident, tu peux, même dans un jugement sur remise en liberté, affirmer que l'accusé a fait ceci, a fait cela, a eu telle affaire.
Mais si c'est pas contesté par la défense, c'est que la défense n'a pas l'air de contester les faits dans ça. Donc,
non, je comprends, monsieur. J'essayais de savoir si c'est bien balisé.
Ouais. Pour ce qui est de l'égaré, n'avait pas l'air, son avocat l'a mentionné aussi, n'avait pas l'air nécessairement étonné de la décision. On disait que c'était du 50-50. Il a gardé les yeux rivés vers le juge pendant toute la décision. Et au final, parce que pour expliquer aux gens, il y a une bonne demi-heure où le juge réexplique toute la remise en contexte, comme si tu n'avais pas assisté aux plaidoiries à la journée là où les avocats ont fait valoir leurs points. Il explique toute sa démarche, toute la réflexion, et à la fin, t'es capable un peu de deviner là où ça s'en va, là, mais vers la fin, c'est dans la dernière minute où il explique que non, Monsieur Légaré, vous allez rester en prison jusqu'à la fin des procédures. Et c'est à ce moment où là, il s'est tourné la tête pour regarder en direction de ses parents, mais il n'y a pas eu de sanglots. On sent qu'on était préparé pour ça. Je vais vous faire entendre, parce que sur place, il y avait des proches des victimes, évidemment, les parents, les pères de Jackson et de Emma, les deux enfants qui sont décédés dans cette tragédie-là. Je vais vous faire entendre Daniel Lefortin, qui est le père de Jackson, pour qui il faut en faire davantage pour sensibiliser. Ces deux hommes-là sont vraiment incroyables, là, je veux dire. Avec tout ce qu'ils vivent, ils prennent quand même le temps de venir commenter les choses. C'est clair, c'est précis. Vraiment, ils ont toute mon admiration pour les avoir en face de moi, les voir agir. Là, ils sont dignes. C'est vraiment bouleversant de leur parler. Puis en fin de semaine à Lévis, il y a eu un autre accident pour alcool au volant avec un mort. Et Daniel Fortin a expliqué que pour lui, il fallait arrêter de sensibiliser doucement puis y aller plus sévèrement.
Des peines exemplaires, des peines, tu sais, de ce que je constate, c'est que c'est beaucoup des récidivistes qui causent des blessures ou des décès. Donc, pourquoi attendre une récidive? Pourquoi que pas, à la première condamnation, je sais pas moi, un temps d'emprisonnement, 30 jours en dedans, pas de permis, 5 ans. Je pense que ça ferait réfléchir beaucoup plus de monde qu'un ticket de 1 000 $ et puis pas de permis pour un an. Fait que je pense que quelque chose d'un peu plus drastique ferait en sorte que le monde va faire comme « Oh, OK, je prendrai pas ma chance parce qu'on ne se cachera pas. Ceux qui se font prendre en état d'ébriété, c'est pas la première fois qu'ils conduisent en état d'ébriété. C'est juste la première fois qu'ils se font prendre. Donc, si, admettons, les politiciens puis la justice ferait dès le début une sentence exemplaire, ou des plus lourdes sentences, c'est criminel. Donc, si c'est criminel, ben agissons comme si c'est criminel. Et non, donner une tape sur les doigts puis attendre qu'il récidive.
Il a tellement raison. C'est que si c'était la prison à la première balloune, est-ce qu'on diminuerait le nombre de balloons? Est-ce qu'on est rendu là, peut-être, dans l'augmentation de la sévérité là-dessus? Parce qu'une première balloune, bon, tu payes un montant, tu perds ton permis pendant X mois, puis après ça, ben Tu mets un souffleur dans ton char puis tu repars, tu sais. Est-ce qu'on serait pas... Puis il a tout à fait raison de dire, tu sais, lui, là, il est à 130 km/h, intoxiqué au cannabis, à l'alcool, complètement sous, complètement gelé. Pensez-vous vraiment que c'est à ce fouet qu'il faisait ça, là? Il y a un bon point, le monsieur.
Et je veux terminer en vous faisant entendre Jean-Dominique Lemieux, qui est le père de la plus petite, Emma, que vous avez entendu peut-être sur nos ondes ou encore vu dans les médias. Lui veut faire beaucoup de sensibilisation. C'est une façon pour lui peut-être de faire son deuil. Ça a un effet thérapeutique, assurément. Et les journalistes, on a eu envie de lui demander comment ça allait. On l'a demandé aux deux pères, parce que ça fait un peu plus de 6 semaines, puis on les voit souvent. Ils sont tout le temps dans le palais de justice, doivent continuer de suivre ça. On lui a demandé à Jean-Dominique comment ça va. Écoutez sa réponse.
Les quartiers, mon quartier qui a jamais été... Je reçois des appels à pratiquement quotidiennement.
Vous êtes de quel quartier?
De Beauport. Puis c'est ça, là. C'est des... OK, on va faire ci, on va faire ça, on plante des arbres, la famille, les plaques, on va faire... Tu sais, c'est incroyable, là. La quantité d'énergie puis d'amour puis de soutien qu'on a reçu de la communauté de la Ville de Québec et même à l'extérieur de la Ville de Québec, c'était vraiment incroyable. C'est sûr que ça l'a beaucoup aidé, là. Donc, on sous-estime ça. Les petites pensées que tout le monde nous laisse, mais ça aide vraiment beaucoup, là. Donc, ça a été très apprécié.
Eux autres, ils n'ont pas à vivre un procès, là, je te l'annonce. Là. On va souhaiter que ça se règle rapidement, cette affaire-là.
On pense vraiment à la famille. Puis je prends un instant pour le rementionner, parce que l'autre fois, il y a la grand-mère d'un des enfants qui nous a écrit, qui a réagi au 25-226. Donc, si cette personne-là est encore à l'écoute, je veux dire à quel point qu'on pense à vous, qu'on vous trouve fort, qu'on vous trouve courageux, qu'on vous souhaite bonne chance pour la suite.
Exactement. Donc, le gars restant dedans, Éric Légaré, qui reste incarcéré. Midi 14 minutes, on va se lancer dans autre chose qui est complètement ailleurs, complètement différent. C'est-à-dire le débat des candidats à la mairie de Québec, le débat de Radio-Canada. Je suis curieux de vous lire 25-226 par texto 418-670-9330. Qui a gagné le débat? Moi, ça me fait rire quand je lis dans les journaux. Tu sais, t'as des gens qui écrivent dans les journaux en tant qu'analyste, expert de telle compagnie, ils disent il n'y a pas de gagnant. Excusez, là, je pense qu'on peut déterminer un gagnant ou une gagnante.
Ou un perdant.
Ou un perdant ou une perdante. Qui a gagné le débat hier? 25226 via texto pour ceux qui l'ont vu. Puis je pose la question, je sais pas toi, Joe, mais hier, moi, c'est la première fois qu'il y a des auditeurs qui m'écrivaient pendant le débat. Donc, tu sais, c'était pas arrivé dans les débats sur débat de la Chambre de commerce, les autres débats qu'il y a eu qui ont été présentés, débats sur l'environnement. Tu sais, celui sur la Chambre de commerce, je pense qu'on était 300 à regarder ça, parce que TVA ne l'a pas présenté à la télé. C'est le Journal de Québec qui le présentait.
Écoute, Alex n'arrêtait pas de nous écrire pendant
la Même Alex, exactement ça.
C'était pis, allumé hier soir, c'était bon.
Puis moi, je l'écoutais en reprise, fait que là, il y a des gens qui me spoilaient ce qui se passait hier. Donc, 25-226, si vous êtes capable de trancher, nous dire qui a gagné ce débat-là. Moi, je pense qu'un des gagnants hier, c'est Bruno Savard. Sincèrement, là, Bruno, hier, qui est un... Je suis pas tout à fait objectif, parce que c'était un collègue à une certaine époque, mais je trouve que Bruno s'améliore avec le temps encore.
Il est bon.
C'est un excellent animateur.
Quel gentleman en plus.
Un gentleman
ça
en plus.
Ça coule, c'est ouais. Très, très bon.
Puis, il y a quelqu'un qui nous dit ça aussi au, au 25-226. Là, je suis tout à fait d'accord. Et la formule, on va se le dire, la formule était excellente. Les débats, on est toujours du pareil au même. Les thèmes, les ci, les ça, puis... Je pense que les gens décrochent à un moment donné. Et l'idée d'avoir le quiz et d'avoir les mises en situation, moi, j'ai adoré ça. Je sais pas qui a eu l'idée de ça à Radio-Canada. Puis bravo en passant aux candidats d'avoir embarqué parce que c'est assez casse-gueule. Vous en parlerez à Marie-Jo Savard qui s'est fait passer le knock-out par le quiz. Ça m'a beaucoup fait penser à ce qui s'était passé avec Marc Bellemare et Mme Boucher. Là, Mme Boucher qui avait réussi à faire dire à M. Bellemare qu'il savait pas c'était quoi un PTI. Quand une membre du comité exécutif de la Ville de Québec, candidate à la mairie de Québec, est pas capable d'avoir la bonne réponse sur la dette de la Ville, j'ai beaucoup de misère avec ça. Moi, je pense que c'est dévastateur, la question qui a été posée hier, puis il n'y a pas d'audio, là, parce que les candidats répondaient avec des panneaux. La question, c'était, selon le dernier budget de la Ville de Québec, quelle est la dette nette de la Ville de Québec prévue pour l'année 2021? La réponse était 1,5 milliard et Mme Savard a répondu 550 milliards.
Si elle avait choisi B, qui était 1,2 à la limite.
À la limite.
Mais là, écoute, c'est trois fois moins. Là.
C'est trois fois moins alors qu'on en parle souvent.
Et c'est la seule qui n'a pas eu la réponse.
C'est ça. Puis c'était un sujet qui revient quand même assez souvent au Conseil
d'État. Mais tu vois, on s'en est glissé un mot avant d'entrer en ondes et comme fidèle à notre habitude, on s'est dit « Ah non, on n'a pas poussé la discussion plus loin, mais... » Je peux comprendre que tu trouves que la pire mauvaise réponse de Marie-Josée Savard, c'est celle sur la dette. Je te comprends, là, je t'obstine pas, mais j'ai juste que moi, celle qui m'en a encore plus jeté à terre, c'est quand elle se fait demander, ils se font demander à combien s'élève le prix d'un billet de bus régulier du RTC.
Ouais.
Écoute, transport en commun, là, on en parle-tu ou on n'en parle pas à Québec? Là,
ben,
le tramway avec le...
Et,
oui, c'est ça, mais donc dans les choix de réponse, il y a 3,50, 3,20, 3 piastres. Mm-hmm. Que quelqu'un se trompe et n'ait pas le 3,20, c'est une chose. Surtout que c'est 3,50 si tu paies comptant. Mais Marie-Josée Savard a répondu B, gratuit depuis le début de la pandémie. C'est parce que si la Ville de Québec avait décidé de rendre gratuit le transport en commun depuis 18 mois, imagines-tu comment on aurait parlé de combien ça représentait en perte, à combien ça coûterait cher d'opérer le RTC?
Que
c'est quelque chose que tu ne peux pas ignorer que c'est pas ça. Comment tu peux te dire c'est gratuit? Alors, ça m'a complètement flabbergasté.
C'est que oui, tu as raison, mais en même temps, je pense qu'au début, il l'était. Je sais pas. Elle n'avait pas le droit de se tromper. Mais la dette, là, je m'excuse, parce que ça revient à chaque séance. Même quelqu'un qui regarde le conseil de façon distraite, un peu assis à la maison à ma TV le lundi de temps en temps, il y a bien des auditeurs qui nous écoutent actuellement qui auraient été capables de répondre à ça. C'est inacceptable quand la personne a de l'expérience qu'elle va être mairesse de Québec. Voyons donc.
Mais
ça passe.
Je savais qu'on allait bon plus loin, comme on parle de gagnants, de perdants et tout ça. Là, autant que le quiz, c'est le résultat est gênant pour Marie-Josée Savard. Là. T'sais, à 4 sur 10, alors que les autres ont eu 7, 8, 9 sur 10.
Qui a eu 9?
Jackie Smith.
Oui.
Bravo. Autant le résultat est gênant, autant je me dis qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à juste analyser le débat en fonction du quiz, parce que il va se trouver des gens, dont Marie-Josée Savard, pour dire « Ah oui, mais là, c'est un peu injuste, puis c'est des cartons, puis c'est un quiz, j'ai pas eu le temps de répondre. »
Je prends pas ça, j'accepte pas ça.
Non, je ne t'ai pas dit de l'accepter ou pas.
Ça va brasser au conseil de ville.
Non, mais Jérôme, je vais juste donner mon idée.
Ça va brasser au conseil de ville.
Il
ne
faut pas s'arrêter à ça. Parce que si on prend un pas de recul et qu'on regarde la performance générale,
ouais.
Au-delà du quiz, Marie-Josée Savard est encore plus perdante que pour le résultat du quiz. Parce que même si j'apprécie la personne, sympathique et tout ça,
oui, ça, on remet pas ça en question.
J'ai trouvé un moment donné, là, j'avais un malaise à la fin du débat. J'ai failli changer de poste. Le petit rire nerveux, pas capable de répondre aux questions, aux attaques des opposants, j'ai trouvé que sa performance était très mauvaise.
C'est
très, très, très mauvaise, au-delà du quiz.
C'est que le quiz va marquer. Comme, je ne ferai pas référence une 20e fois, Mme Boucher et Marc Bellemare, mais puis aussi La Bombe en 2013 qui dit « Personne rêve de peur de prendre un transport en commun ». Il y a des... Il y a des séquences comme ça qui sont des game changers qui restent même gravées dans l'histoire de la politique municipale. Puis ça, ça risque de l'être. Puis moi, ce qui me déçoit là-dedans un peu, Joe, c'est que je pense que Marie-Josée Savard pourrait faire une bonne mairesse. Mais le problème majeur que j'ai vu encore hier, c'est qu'on dirait que ça y tente pas. Ça y tente pas d'être mairesse. Parce qu'elle arrive au débat, elle est comme low energy. Elle a comme pas de. Elle n'a pas le feu dans les yeux. On dirait qu'elle a comme été poussée là parce que M. Labeaume essayait de trouver des dauphins puis des dauphines, puis finalement, elle s'est retournée vers elle. Puis là, je suis pas en train de dire qu'elle pourrait pas l'être. Je l'ai répété plusieurs fois. Moi, je pense qu'elle a elle aurait les compétences, elle aurait la personnalité pour être mairesse de Québec. C'est une personne qui est sympathique. Je pense que une personne qui est compétente, qui a un vécu intéressant, qui je pense est groundé, qui est en affaires. Je pense que ça y tente juste pas d'être là.
Je suis d'accord avec toi, puis j'y pensais hier soir, on en parlait à la maison, puis je faisais le parallèle avec Valérie Plante, parce que quand Valérie Plante a été élue mairesse de Montréal, je trouvais qu'elle avait pas l'air à sa place. C'était pas naturel, puis 4 ans plus tard, tu regardes Valérie Plante aller, puis elle a ses habits de mairesse. C'est une mairesse, on peut être d'accord avec elle, on peut ne pas l'aimer ou pas, mais elle est mairesse de Montréal, ouais. Elle connaît ses affaires et tout ça, puis je suis pas mal convaincu que dans 4 ans, on dirait la même chose de Marie-Josée Savard.
Possible.
Donc, je te rejoins 100% parce que je sais qu'en plus, leurs gens nous écoutent. Là, ils vont nous écrire,
ce qu'ils veulent.
Je suis pas en train de dire qu'elle peut pas être mairesse. Je dis juste que pour des gens qui étaient pas convaincus hier ou qui voulaient être sécurisés dans leur choix, d'après moi, il y en a un puis un autre qui ont dit, oups, attends là. Entre autres, par le manque de conviction.
Manque de conviction, c'est ça. Puis, à quelque part, elle est chanceuse parce qu'elle a un capital de sympathie dans les médias à Québec. Ça, je pense que c'est assez indéniable. Imaginez juste si c'est Jean-François Gosselin qui avait répondu une mauvaise réponse à ça, le déficit hier, jusqu'à quel point ça serait fait beurrer. Ça aurait été pas mal pire que ce que Mme Savard doit subir ce matin. Tu sais, donc, voilà, ça a été... Est-ce que tu as l'extrait sur Centraide?
Oui, tentative d'attaque pour remettre en contexte. C'était le thème des villes, des services publics.
Ouais.
Et Bruno Marchand a l'air de se diriger vers le fait que la ville méprise ses employés. Souligne ça au passage.
C'est ça.
Puis, ben, Marie-Josée Savard, on a senti qu'elle voulait attaquer dès le départ, qu'elle avait une ligne...
Avec quelque chose.
C'est peut-être pas sorti comme elle l'aurait voulu.
Mais ça a mal sorti. On va écouter ça.
Mais je peux juste demander à M. Marchand comment il était avec ses employés à Centraide pour considérer que les employés de Québec, de la ville de Québec, sont mal, je sais pas comment vous avez dit ça tout à l'heure, là, mais qui sont méprisés.
Qu'est-ce que vous insinuez?
J'insinue pas, mais je comprends qu'il y a un comparatif pour vous. Si vous me dites que les employés de Québec, de la ville de Québec, sont méprisés, ça veut dire que de votre côté, lorsque vous étiez à Centraide, vous étiez mieux?
Quand on rencontre les employés, M. Rousseau et M. Gosselin ont fait d'éloquents témoignages, là, c'est exactement ce que les employés nous disent. Il n'y a pas en haut des élus pour nous défendre. Il n'y a pas en haut des élus pour être fiers. Il n'y a pas en haut des élus pour dire « Cette ville-là, on l'a construit ensemble. On est une équipe. » Et c'est pas vrai qu'on va taper sur notre monde qui délivre au service public.
Centraide. Québec est une très petite ville. À Québec, tout le domaine médiatique, politique, charitable, caritatif... comment dire? Disons que les médias, les politiciens, le domaine caricatif, à un moment donné, on se croise.
Ça se côtoie beaucoup, là.
On se côtoie tout. Là, depuis la pandémie, c'est moins ça. Mais souvent, une fois ou deux par semaine, il y a une soirée de ci, une soirée de ça. Puis tout le temps, le même monde à Québec qui est là. Et donc... Je comprends que Marie-Josée Savard a décidé d'essayer de gruger un os relié à Centraide, OK? Je sais pas quoi exactement, parce que quand tu te mets à regarder un peu comment ça fonctionne chez... tu sais, on a tant de sortes d'affaires là, sur Centraide, on se le cachera pas, puis sur comment ça se passe à l'intérieur. Mais tu sais, tout ce qu'on a d'officiel, par exemple, c'est les relevés sur l'Agence de revenus du Canada, qui nous apprend que Centraide, Québec, Chaudière-Appalaches, ben par exemple, ça, c'est l'organisation qui était dirigée par Bruno Marchand jusqu'à tout récemment. Il y a une personne qui gagne entre 160 000 et 199 $. Là, c'est des chiffres qui datent de 2020. J'en comprends que c'était probablement M. Marchand qui... Bon, ça, c'est l'officiel. Mais si tu amènes ça dans un débat, je pense pas que tu ferais beaucoup de millage avec ça. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce que Mme Savard essayait d'amener là-dessus sur la gestion de Centraide, qui est une organisation qui est quand même très présente à Québec, très présente dans les entreprises, les milieux de travail aussi?
Tu peux pas amener des références comme ça ou des sous-entendus sans appuyer ton dire. Là.
Mais faut que t'a, faut
en politique du provinciale, mettons, ça s'est souvent vu, ça, des allusions à de la collusion, des mauvais agissements. Tu sais, à la limite, puis je suis très, très clair, je dis pas que c'est ce qu'elle a fait hier, mais quand tu fais ça, tu t'approches de la diffamation.
Ouais.
Si tu viens pas appuyer tes dires. Donc là, Marie-Josée Savard est tournée autour de quelque chose. Là, tu peux pas juste laisser ça dans les airs. Si elle a quelque chose à dire sur la gestion de M. Marchand avec Centraide, qu'elle le dise, sinon qu'elle se taise.
Elle a été questionnée à ce sujet-là en mêlée de presse. J'ai pas gardé l'audio parce qu'elle n'avait rien à ajouter. Non, rien du tout.
Parce que tu peux pas amener du mémérage de soirées caritatives puis de tout le monde qui se connaît à Québec dans des débats comme ça, sans, alors qu'il y avait peut-être quelque chose. Je sais pas, moi, je sais pas ce qu'elle avait en tête exactement là-dessus, Mme Savard. Pour ce qui est de Jean-François Gosselin, on sent que son projet, son métro léger, encore un peu difficile de gagner les échanges là-dessus. Tu sais, quand il y a un échange là-dessus, on lui demande « Ouais, combien ça va coûter? Y a-tu deux tunnels, le tunnelier, comment ça va fonctionner? » On sent qu'il y a un peu de... Il y a un peu de nervosité, puis un peu de... Je pense que ça paraît que il manque un peu d'experts. C'est sûr que lui, il n'a pas le budget de la ville pour engager des experts, mais tu sais, des experts pour backer un peu son projet. On dirait qu'il manque encore de confiance quand il essaie de parler de ça. Voilà, c'est... Ah, ben oui, vas-y. Okay,
voulais-tu l'entendre?
Ouais,
là,
oui, non, parfait, ça, mon Alex.
J'avais dit sur les ondes radio du 93.3 la semaine dernière que pour aller aussi vite que le tramway, parce que votre projet allait être prêt en même temps, vous étiez prêt à mettre deux tunneliers puis ça ne coûterait pas plus cher. Comment vous faites pour arriver à ce calcul-là? Là, vous avez des tunneliers dans votre cour?
Non, j'ai pas de tunnelier dans ma cour, M. Marchand, mais merci pour la question.
Vous avez le culot de dire que nous, on a travaillé notre projet sur une napkin quand ça fait 10 ans qu'on le travaille, puis vous arrivez avec un vidéo de 2,5 minutes puis vous dites... Ça va arriver au même coût que le tramway de Québec.
Le métro léger coûte entre 150 et 175 millions du kilomètre, alors que votre tramway, présentement, est à 174 millions du kilomètre. On est rendu dans des coûts de métro léger. Pourquoi vous ne m'appuyez pas?
Ben, notre projet se tient. C'est un excellent exemple de désinformation. Moi, j'ai vu votre présentation complète, puis il y a des trous logiques dedans. Quand on pourrait passer le métro au complet, léger ou lourd, dans les trous de logique.
Elle était bonne, Jack Smith, hier. Ça demeure que c'est pas un facteur dans la prochaine élection. Puis on voit que, bon, la maîtrise approximative du français, ça peut lui nuire. Mais souvent, son propos, ça se tient. Ouais, elle a des bonnes attaques.
Je trouve que c'est impertinent. Je suis désolé. Je suis pas capable, tu sais, comme électeur, je me dis, y a-tu quelque chose là-dedans?
Non, mais des points qu'elle soulève, sans parler de ses idées à elle, les contradictions ou les reproches qu'elle peut faire envers d'autres candidats, des fois, ça mérite d'être...
Petite remarque de journaliste aussi qui la suit et qui suit les débats depuis le début. C'est sûr que c'est facile parce que, bon, elle n'a pas nécessairement à démontrer comment elle réaliserait tous ses engagements.
Parce qu'elle a aucune chance d'être au pouvoir.
Mais c'est elle qui donne les réponses les plus claires en matière de mobilité, de transport. T'sais, le dossier du tramway sur René Lévesque, elle, c'est clair. Elle enlève les voitures, elle laisse les arbres là. Oui, le troisième lien, c'est clair, il n'y en aura pas. Elle veut même transformer le pont de Québec en piste cyclable géante.
C'est ça, mais c'est facile quand tu as des idées
farfelues.
C'est ça,
effectivement.
Je veux dire, c'est plus facile peut-être des assumer. C'est tellement farfelu qu'à un moment donné, on sait qu'elle sera pas élue. Concernant le 10 ans, tu sais, Mme Savard dit, hey, nous autres, ça fait 10 ans qu'on travaille notre projet, c'est pas sur une napkin, vous, c'est juste une vidéo. Il y a juste un détail là-dessus, puis c'est pas de sa faute, là. C'est une réalité, c'est un gouvernement. Si je veux dire, l'administration de la bombe a été élue à plusieurs reprises, on peut pas remettre ça en question. Mais ça fait 10 ans aussi qu'ils montent des projets avec l'argent des contribuables, avec des ingénieurs, avec ci, avec ça. C'est pour l'opposition, je veux dire. Puis c'est leur problème, l'opposition aussi. À un moment donné, c'est pas le problème des contribuables nécessairement. Mais tu sais, l'opposition arrive avec des budgets d'opposition aussi.
C'est quoi, c'est 500 000 par année?
C'est 500 000 par année. Combien de millions ont été dépensés par la Ville de Québec?
Plusieurs millions.
T'sais, c'est plusieurs, doit être des dizaines de millions. Là,
bureau pour, de projet, c'est quoi? C'est 40 ou 60?
Non, mais depuis 10 ans.
Ah, depuis 10 ans.
Ça fait depuis 10 ans. Recule à 2011. Combien d'argent a été dépensé par les gouvernements et par les contribuables, par la ville pour ça? C'est... Puis on arrive avec un résultat qui est so-so aussi. Fait qu'il y a ça aussi.
Sauf qu'on a évalué un peu les autres types de moyens de transport aussi dans les évaluations depuis 2011.
Ouais, sauf que le BAP leur a dit, vous avez pas assez évalué le métro. En tout cas. Voilà. Je sais pas, t'avais-tu d'autres extraits, Joe? Tu t'en gardes tantôt?
On va y revenir.
On va y revenir tantôt. On va revenir à ça. On va prendre le temps de bien déballer.
Des réacts sur le quiz?
Oui, c'est vrai.
Tu vas aller en avoir.
Oui, Félix va venir nous voir.
Peux-tu nous faire sourire juste avant d'aller à la pause? Oui. Tantôt dans le bureau, Jérôme m'a entendu éclater de rire. Là. Je sais pas si tu la fatigues, j'ai trouvé ça vraiment drôle. On est bombardé de communiqués toujours à longueur de journée, mais en campagne électorale encore plus. C'est tous les partis nous envoient des convocations, des communiqués. Et on a reçu un communiqué d'équipe Marie-Josée Savard qui s'appelle « Équipe Marie-Josée Savard lance un appel au vote des jeunes ». Et je vous lis juste le premier paragraphe. Et là, on parle d'un événement qui a eu lieu la veille. À quelques semaines de l'élection générale du 7 novembre, équipe Marie-Josée Savard a réuni une quarantaine de jeunes citoyens de la ville de Québec dans le cadre d'un pub quiz au sacrement. Animé par Guy Langlois, concepteur des Sacrés Quiz, l'événement a mis à rude épreuve les connaissances des participants sur la ville de Québec, la politique et la culture générale. Moi, je m'excuse, mais si je suis au com, l'équipe Marie-Josée Savard, puis là, il y a quelqu'un qui disait, hey, on avait planifié un communiqué pour dire qu'on a fait un quiz avec des jeunes hier. Je prends. Tu sais, non, ça va être,
on va
le laisser faire. On va. On n'est pas obligé. C'est pas un game changer, ce communiqué-là. On ne l'émettra pas parce que la candidate, as-tu participé au quiz? Non, elle n'a pas. OK, non, elle n'a pas participé.
Mais ça me fait un peu de peine, tout ça, pareil, Joe, parce que. Crime, je trouve que Marie-Josée Savard, c'est quelqu'un qui peut définitivement amener quelque chose de majeur en politique municipale à Québec. Ça me fait de la peine que ça vire.
Ah, ben, ses chances d'être élu demeurent très bonnes.
Sauf qu'une fois assise au conseil de ville, avec un conseil de ville qui va peut-être être divisé, je veux dire, il faut voir qu'elle sache le montant de la dette, là. Puis le montant du déficit, là. Comprends-tu, là? C'est ça que je trouve un peu triste dans tout ça. Et là, c'est vrai, juste avant la pause, juste parce que je veux pas l'oublier, puis je voulais te donner une job, Philippe, aussi, là.
Je t'écoute.
J'aimerais ça que tu ailles sur la page Facebook du FM 93, OK? Partager la photo d'un fraudeur. On a reçu ça tantôt du SPVQ, là, de la police de Québec, là. C'est, puis les photos sont assez claires. D'après moi, on peut le pogner cet après-midi, là. C'est des photos qui ont l'air d'être prises dans une entrée de guichet automatique, OK? Et c'est un suspect pour, donc, la fraude du petit-fils, OK? La police de Québec qui recherche avec la population, l'aide de la population et des médias afin d'identifier un homme qui serait suspecté de fraude de plus de 5 000 $. Un événement survenu le 19 octobre 2021. C'est il y a 2 jours. D'habitude, c'est plus long avant qu'on ait la photo. Donc ça, c'est il y a 2 jours. En matinée, dans le secteur de Charlebourg, et la police qui a des raisons de croire que le suspect pourrait continuer de faire des victimes vulnérables s'il n'est pas arrêté rapidement. Donc, dès que, pendant la pause, si t'as le temps, puis Rod va mettre la photo, le suspect, ce qu'il fait, là, c'est qu'il communique avec une victime par téléphone. Il se fait passer pour un proche ou une personne en autorité comme un policier. Et il exige ensuite de l'argent en mettant de la pression sur sa victime pour de fausses raisons, par exemple pour payer une caution, genre pour un petit-fils. D'où le nom de la fraude du petit-fils. Et il communique avec des personnes qui sont d'un certain âge, etc. On connaît un peu ce genre de stratagème-là, c'est pas la première fois. Mais là, ce qu'il y a de particulier, là, c'est que quelqu'un qui le connaît, là, il le reconnaît tout de suite. Là. Même s'il a son masque anti-COVID dans la face, là, il est très, très facile à reconnaître. Un gars de 5 et 10... poids proportionnel, lunettes, jeans, veston bleu pâle, circule à bord d'un Nissan Qashqai récent. 641 AG ou encore 911. On est capable de pogner ça après-midi, ce fraudeur-là, d'après moi, Phil.
J'y vais de ce pas.
Salut, merci, bon travail. Merci. Déjà midi 33, t'es-tu fâché après nous autres, Alex? Pas si pire. Okay,
jamais fâché, moi, début de show. Okay. À la fin, oui.